It's my pleasure, comme disent les Anglais, de présenter aujourd'hui notre intervenante, Anne-Carole, qui est. Alors, elle ne dit pas historienne parce que. Parce que Stéphane Bern lui-même se dit historien, donc elle est agrégée d'histoire, docteur en histoire, professeur des universités, professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille et chercheur de l'UMR Télème. C'est probablement l'une des historiennes en France. A travaillé de façon conséquente et depuis le plus longtemps sur des questions de la mort et du cadavre, en parallèle avec ses interrogations sur le savoir médical. Elle a notamment, et je vais essayer de mettre le lien dans l'espace de discussion, elle a notamment conduit un programme de recherche de 2009 à 2013. Sur le cadavre et programme qui a largement contribué au renouveau des études sur le corps mort. Elle a également publié un certain nombre d'ouvrages, notamment récemment un ouvrage qui s'intitule Au pied de l'échafaud. Je ne me souviens plus du tout du sous-titre, Une histoire sensible de l'exécution, qui est paru en 2017, et un ouvrage sur l'embaumement également, qui est un peu plus ancien, qui date de 2015, qui pourra intéresser certains des participants de ce séminaire du jour. Elle est également chercheure associée à deux programmes de recherche qui sont en cours. L'un que nous conduisons avec Valérie Robin-Azevedo sur la question des réinhumations collectives et l'autre qui est conduit par Gaëlle Clavandier et une équipe suisse sur la crise de la crise dans le secteur du funéraire qui est engendrée par l'épidémie de Covid. Voilà, je ne vais pas être plus longue et lui passer la parole, puisqu'à chaque fois, on ressort de ses interventions plus riches et plus intelligents. Pour l'avoir vu plancher à de nombreuses reprises, je suis certaine que les participants du séminaire aujourd'hui vont beaucoup apprécier cette intervention. Anne, c'est à toi.
Merci Elisabeth et merci de façon générale aux organisatrices hein, de ce séminaire de m'avoir invitée. Je suis confuse devant cette avalanche de compliments. Ça me met la pression en même temps, hein, puisque je sais pas s'il y a une mesure à la fin de la séance pour savoir si le QI des assistants a augmenté. Mais bon, on va essayer de faire au mieux. Alors, je voulais m'excuser de ne pas avoir pu participer comme auditrice hein, aux séances précédentes. Je voudrais aussi m'excuser, c'est pas tellement le mot, mais prévenir du fait que ce que je vais présenter aujourd'hui n'est pas exactement ce que j'avais prévu de faire lorsque j'avais été contactée pour participer à ce séminaire. En effet, je voulais partir d'une étude assez précise d'archives qui sont conservées aux Archives nationales de Pierrefitte hein, sur la circulation des corps entre l'école pratique de dissection de Paris et les hôpitaux. Donc je vais partir de ça vraiment et puis à partir de là élargir à la question de l'approvisionnement des corps pour la médecine au XIXe siècle. En fait, bon, ben, comme vous le savez tous, hein, le confinement, la fermeture des archives, etc., ne m'ont pas permis de reprendre ce dossier et de l'enrichir. Je vais plutôt en fait, faire un espèce de panorama très général hein, où j'insérerai le peu que j'ai sur cette question. Un panorama général donc de cette question de l'approvisionnement des corps auprès des médecins. Alors, de quoi je vais parler ? Donc, je vais parler du besoin croissant des médecins en cadavres et de la façon dont ce besoin a été satisfait. Je vais en parler dans l'espace français et surtout d'ailleurs parisien, pour lequel la documentation est pour l'instant la plus riche. Je vais me centrer sur le 19e siècle, même si je serai obligée de faire des retours en arrière sur le 18e siècle. Et pour aborder cette question, je vais procéder en trois temps. Je vais d'abord m'intéresser à la demande, expliciter les besoins encore et replacer cette demande dans les transformations de la médecine. Pourquoi a-t-on besoin de corps donc, et pour en faire quoi ? Ensuite, je verrai quelles sont les solutions qui sont mises en œuvre pour répondre à cette demande. Et enfin, dans un troisième temps, j'aimerais évoquer la question des effets de cet usage des corps, de cette appropriation des corps par la médecine, les effets sur les corps eux-mêmes, et mettre en contexte ces effets dans l'évolution des sensibilités face à la mort, pour montrer pour m'interroger sur le traitement funéraire éventuel de ces corps et la façon dont ces appropriations médicales créent des situations d'anomie hein, par rapport aux funéraires. Voilà, donc en gros, mon programme, je vais donc commencer, je vous l'ai dit, par la première question, hein, donc fournir des corps, pourquoi et pourquoi faire. Alors, ça m'oblige, je vous l'ai dit, à revenir un petit peu en arrière. À partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les médecins et les chirurgiens cherchent à s'approprier des corps en nombre croissant. Pourquoi ? C'est lié à plusieurs éléments convergents. Premier élément, c'est le développement de l'anatomie. Alors, je rappelle que l'anatomie s'est constituée depuis la fin du Moyen-Âge comme une discipline autonome, dont les relations avec la médecine sont complexes, hein, il faut faire attention aux anachronismes. Je vous renvoie aux travaux de Raphaël Mandressy, hein, notamment son livre « Le regard de l'anatomiste » qui reprend les choses de façon très brillante. Je voulais en particulier, quand je parle de complexité des relations entre l'anatomie et la médecine, je voulais en particulier évoquer le fait que longtemps, hein, on a pu penser que la connaissance de l'anatomie n'était pas absolument nécessaire à la pratique de la médecine, hein, inversement, hein, que la pratique de l'anatomie ne devait pas déboucher sur l'exercice médical. Hein, il s'agissait vraiment de deux disciplines parallèles et parfois même de deux métiers différents. Hein, de nombreux anatomistes par le passé n'ont pas exercé la médecine. La médecine, hein, longtemps repose sur la théorie des humeurs, et donc, pour aller vite, hein, je dirais que tout ce qui relève des parties solides du corps, finalement, ne l'intéresse pas nécessairement. Hein, la connaissance des parties solides du corps n'a que peu d'intérêt dans le cadre d'une thérapeutique qui s'intéresse surtout aux humeurs. Donc l'anatomie, elle est là pour percer les secrets de la nature, hein, de la perfection de la création divine, et elle se pratique à l'époque moderne de façon publique, hein, dans des théâtres anatomiques dont on peut encore visiter certains, comme celui de Padoue par exemple, hein, avec des grandes leçons donc ouvertes, encore une fois, un public large, plusieurs fois, une ou deux fois l'an, hein, et donc avec une fréquence qui n'est pas très, très élevée. Alors, l'anatomie, elle sert aussi quand même aux chirurgiens. Elle sert aux chirurgiens dans la pratique de leur art. Hein. Alors, là aussi, je suis obligée, excusez-moi, d'aller un peu vite, hein, mais au XVIIIe siècle, pour des raisons qui seraient trop longues d'expliciter ici, les chirurgiens qui sont dans une position d'infériorité socio-professionnelle par rapport aux médecins mettent en œuvre des stratégies de promotion sociale, d'ascension sociale, de montée en dignité et en légitimité. Donc, ils mettent en œuvre ces stratégies d'ascension sociale, notamment avec le soutien du roi, hein, qui cherche de son côté à affaiblir la faculté de médecine, et qui multiplie, pour concurrencer la faculté de médecine, des lieux d'enseignement alternatif, hein, de l'art de soigner, comme par exemple le Jardin du Roi, hein, qui est créé au XVIIe siècle, le futur Jardin des Plantes, hein, où l'on enseigne la médecine, l'anatomie. Et donc cette chirurgie qui se développe et qui développe ces lieux de formation, elle a besoin de corps, hein, contrairement à la médecine où l'enseignement est essentiellement livresque, elle a besoin de corps pour des opérations chirurgicales, donc pour s'entraîner, comme on dit, aux manœuvres chirurgicales, pour les dissections, hein, pour se perfectionner en anatomie, parce que là, bien sûr, pour exercer la chirurgie, il faut connaître l'agencement des parties du corps, hein, donc là, c'est un besoin essentiel. Et donc, voilà, la chirurgie développe aussi une demande de corps croissante au XVIIIe siècle. Par ailleurs, pour compléter ce contexte, hein, se développe une nouvelle forme d'anatomie, c'est l'anatomie pathologique, hein, autant l'anatomie tout court cherchait à percer, encore une fois, les secrets de la nature, de la création divine, etc., hein, autant l'anatomie pathologique se donne pour tâche de connaître les causes et la marche des maladies, et cette anatomie pathologique va se développer avec la clinique au même moment, hein, à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire l'observation au chevet du malade, au lit du malade, pratiquée dans des structures hospitalières. Donc un système qui combine l'observation sur le corps vivant, hein, des symptômes, des lésions corporelles extérieures, avec l'observation ensuite sur le corps mort de ces lésions, hein, et notamment des lésions internes cachées au regard, qui sont dévoilées donc, par le scalpel. Donc il y a un continuum, hein, entre la clinique et l'anatomie pathologique qui va se développer simultanément. Donc cette nouvelle manière d'appréhender la médecine, elle va passer par un rapprochement entre l'hôpital, les différentes formes d'hôpitaux, hein, les hôtels-dieux, les hospices, les charités, etc., et les lieux où est dispensé l'enseignement médical, hein, les écoles, les facultés de médecine. Alors, cette évolution, ces évolutions vont se traduire, qui se produisent dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, hein, pour parler à la louche, ces évolutions, elles vont se traduire institutionnellement dans la réforme des études de médecine. Donc, je l'ai dit il y a quelques minutes, hein, jusqu'à la Révolution, il y a une dispersion des lieux d'apprentissage de la médecine ou de la chirurgie, hein, et donc de la pratique des travaux anatomiques, hein, la faculté de médecine, l'académie de chirurgie, l'école pratique de dissection, le jardin du roi, etc. Bon, il y a donc une dispersion. En 1792, la Révolution abolit toutes les facultés, toutes les académies. Et donc, il y a une petite période, là, jusqu'en 1794, où il n'y a pas de lieu d'enseignement, sinon informel. Hein. Et cette courte parenthèse va s'achever en 1794. Donc, une loi va mettre fin au désert académique et va reconstruire donc, les études médicales en établissant trois écoles de santé à Paris, à Montpellier, à Strasbourg, qui deviendront ensuite des écoles de médecine, hein, en 1798, puis des facultés à nouveau en 1806. Bon, donc, on reconstruit des études médicales, voyez, à l'extrême fin du 18e et au début du 19e, sur la base de la fusion entre la médecine et la chirurgie, donc cette espèce de différence de statut est abolie, hein, et avec de nouvelles bases pédagogiques. Donc dans l'enseignement de la médecine, hein, tel qu'il est conçu dès 1794, eh bien, vous avez des stages hospitaliers qui sont intégrés, des matières telles que la pathologie interne, des leçons en amphithéâtre, des dissections qui sont prévues. Alors, cette reconstruction de l'enseignement médical s'achève, si je puis dire, en 1803, hein, ce cycle de reconstruction s'achève en 1803 avec une loi qui rétablit le monopole médical et qui définit les diplômes nécessaires pour exercer. Donc, à partir du début du XIXe siècle, vous avez un cursus des études médicales qui va perdurer tout au long du XIXe siècle et au-delà, qui combine un enseignement théorique, un enseignement anatomique, donc il faut pratiquer des travaux anatomiques, un enseignement clinique et des autopsies réalisées sur les corps, hein, dans le prolongement de ces stages cliniques, de cette pratique clinique. Donc, si je fais le bilan, hein, donc à l'orée du XIXe siècle, on a besoin de corps pour quoi ? On a besoin de corps pour les autopsier, on a besoin de corps pour les disséquer, qu'il s'agisse d'anatomie normale ou d'anatomie pathologique. Alors, en théorie, autopsie et dissection sont deux choses distinctes. Hein. Dans le cas de l'autopsie, il ne s'agit que de vérifier un diagnostic sur un individu. Hein. Donc, l'intervention sur le corps est limitée, hein, et l'autopsie a lieu à l'hôpital. Dans le cas de la dissection, j'aurai l'occasion d'y revenir, hein, bien sûr, il s'agit d'une pratique qui est beaucoup plus intrusive sur le corps, qui n'est pas liée à un individu dont on aurait suivi, en quelque sorte, le cours de la maladie, hein, et qu'on aurait soigné. Donc, c'est une pratique qui est plus intrusive et plus anonyme, d'une certaine façon, où il s'agit de démonter, entre guillemets, le corps, d'évaluer l'étendue des lésions que peut provoquer telle ou telle pathologie, hein, et ça peut aboutir, donc, ça a des effets sur le corps évidemment très différents, ça peut aboutir à une fragmentation, hein, qui confine à la destruction du corps, hein, et ça diffère aussi de l'autopsie dans la mesure où, a priori, ces dissections doivent avoir lieu dans des salles liées à des structures d'enseignement, hein, ou dans des salles liées à des structures de recherche, des laboratoires, etc. Je reste pour l'instant volontairement vague. Donc, en théorie, ce sont deux choses distinctes, ces deux premières formes de demande encore. En réalité, c'est plus complexe, hein, on le verra, la tentation est très grande dans les hôpitaux où se pratiquent les autopsies de pousser ces autopsies très très loin et finalement de les amener aux limites de la dissection. Alors, on a besoin de corps donc, pour les autopsies, on a besoin de corps pour les dissections, on a besoin de corps pour s'entraîner à la chirurgie, hein, dans le cadre de sa formation pour les étudiants, ou dans le cadre de son entraînement, de son perfectionnement pour des chirurgiens bien établis, hein, qui ont besoin de ces corps aussi pour tester, par exemple, des nouvelles méthodes opératoires. On a besoin de corps aussi pour constituer des collections qui vont servir de support à l'enseignement, donc pour fabriquer des pièces sèches, des pièces humides, pour fabriquer des cires, etc., etc. Et ces collections, on peut les trouver dans des hôpitaux, on peut les trouver dans des facultés, dans des collections privées, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Enfin, ce tableau ne serait pas tout à fait complet si on n'ajoutait pas les besoins créés par le développement de la médecine expérimentale, à partir des années 1820-1830, où Là aussi, j'y reviendrai plus tard, on a aussi besoin de corps pour faire des expériences. On peut utiliser certains corps pour faire des expériences. J'aurai l'occasion d'en reparler à propos des corps, d'un type de corps particulier, les corps des suppliciés. Alors, avant de voir comment cette demande multiple est satisfaite, je voudrais dire quelques mots de la façon dont elle est encadrée et régulée. Alors, au XVIIIe siècle, d'où part-on ? Au XVIIIe siècle, donc je renvoie là encore à Raphaël Mandressy, on a une multiplication de salles de dissection privées qui ne se sont développées que pour remédier à la difficulté à accéder à des corps dans les divers lieux d'enseignement que je citais tout à l'heure, fac de médecine, collège de chirurgie, jardin du roi, etc. Ces lieux sont les premiers à être approvisionnés, mais en nombre insuffisant pour les étudiants, pour ceux qui désirent pratiquer des interventions sur ces corps. Et donc, voilà, on a des salles privées qui fleurissent avec des cours payants et des travaux anatomiques payants. Donc, ça ouvre une période qu'on pourrait qualifier de pratique un peu sauvage, non contrôlée, qui va se prolonger pendant la période révolutionnaire, où, comme on l'a vu, l'enseignement est désorganisé, déstructuré pendant un certain temps, et donc les initiatives individuelles fleurissent. Alors, les autorités locales vont reprendre la main dès 1798, et des règlements vont s'efforcer de cadrer les lieux, de cadrer les acteurs, les modalités de l'appropriation de ces corps. Alors, je vais faire un partage d'écran en même temps que je parle. Alors, une seconde, j'ai fait deux, trois petites manips. Voilà, excusez-moi. Donc, je fais un partage d'écran. Sauf que j'aurais pas dû procéder dans cet ordre. Je vais y arriver. Voilà. Voilà, donc je disais que cette régulation, elle se faisait en deux temps. Alors, je ne veux pas vous assommer sous une avalanche de dates, etc. Bon, dans un premier temps, fin 18e, début 19e, vous avez une série d'arrêtés, comme vous le voyez, qui tentent de mettre un peu d'ordre. Donc, aucune salle ne peut être ouverte sans autorisation des instances municipales. Et vous avez tout un contrôle policier de ces... si vous voulez, je mettrai à disposition le PowerPoint pour archivage, si les gens veulent s'y reporter. Donc, vous avez tout un contrôle policier des modalités qui concerne donc, qui peut ouvrir. Donc, il faut obtenir une licence. Quand, il y a certaines périodes de l'année, ou dans quel type de lieu, et également qui réglemente la question du devenir des restes. À Paris, dans le cas qui est le plus documenté, vous avez d'abord création de pavillons de dissection à la faculté de médecine de Paris, ce qui est encore l'école de médecine de Paris, j'ai mis faculté de médecine, mais c'est l'école de médecine de Paris. Et vous avez également une ordonnance, donc ça c'est le lieu qui est officiellement créé, et puis vous avez une ordonnance du préfet de police qui soumet l'ouverture de salles privées à des procédures d'enquête, et notamment d'enquête décommodo et incommodo, c'est-à-dire où on s'enquiert auprès du voisinage des troubles éventuellement que l'ouverture de ces salles pourrait occasionner. Et également, on décide que des dissections pourront être pratiquées de façon dispersée dans les hôpitaux. Alors, Pour ce qui est du cas parisien, par exemple, à la fin du Premier Empire, hein, donc en 1814, hein, vous avez, selon les sources, une estimation du nombre de salles privées qui oscille entre 15 et 40 salles. Alors, vous voyez que c'est un chiffre qui est qui n'est pas facile à utiliser. En même temps, son caractère très imprécis, hein, montre bien le caractère. Finalement, le fait que ces salles sont assez, assez volatiles, hein, et en tout cas assez nombreuses pour pallier les insuffisances des salles de l'école de médecine. Alors, dans un deuxième temps, vous avez une deuxième série de réglementations. Ne vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas passer en revue tout le siècle. Donc là aussi, je vous ai synthétisé les principales forme de régulation à Paris. Hein. Donc, vous avez une centralisation, une tentative de centralisation de ces dissections qui étaient un peu dispersées dans les hôpitaux vers l'hôpital de la Pitié. En 1813, on supprime toutes les salles privées et toutes les salles, tous les amphithéâtres des hôpitaux, sauf celui de la Pitié. Alors, il y a des oscillations, on revient en arrière en 1817. Bon, l'important, c'est en 1834, une ordonnance de police supprime définitivement toutes les salles privées, donc il ne peut plus y avoir de salles privées de dissection à Paris, et les seuls pavillons autorisés sont ceux de la faculté de médecine et de l'amphithéâtre central des hôpitaux, hein, qui est déplacé par la même occasion à Clamart. Donc, voilà comment s'établissent des conditions relativement stable, hein, pour le 19e siècle, avec évidemment après toute une série d'aménagements, de perfectionnements dans les lieux où sont réalisés ces travaux anatomiques. Je vous ai mis juste une diapositive qui vous montre par exemple la nouvelle école de médecine et les nouveaux pavillons de l'école de médecine, de la faculté de médecine qui sont inaugurés en 1883. Hein. Je vous ai mis aussi une petite diapositive qui vous montre la salle de dissection de Clamart, hein, c'est-à-dire celle qui rassemble les dissections pour les hôpitaux. Bon, c'est vraiment pour donner une illustration concrète à ce que je suis en train de vous décrire. Alors, pour finir sur cette première partie, sur la question de la demande et de la... des lieux où celle-ci se manifeste. Est-ce qu'on peut évaluer les besoins? Alors, c'est là que la plongée dans mes archives, elle aurait été salutaire, hein, parce que ça m'aurait permis d'extraire des données chiffrées, au moins dans le cas parisien. Bon, on a quelques éléments dont la principale conclusion, c'est... qu'on peut en tirer, c'est la très forte croissance, évidemment, de cette demande. Tenon, par exemple, qui va écrire en 1785, pardon, un mémoire sur les obstacles que rencontre l'anatomie et l'enseignement de l'anatomie, hein, évalue donc en 1785 le besoin annuel de corps pour Paris à peu près 500 par an. Hein, donc, il ne dit pas qu'on dissèque 500 corps par an, mais il dit qu'en gros, si on répertorie tous les endroits où on fait des travaux anatomiques, il faudrait à peu près 500 corps par an pour que les choses fonctionnent bien. Un peu moins d'un siècle plus tard, en 1860, hein, on sait que ce sont à peu près 4000 corps qui transitent, hein, de fait par les amphithéâtres de la faculté de médecine et ceux des hôpitaux parisiens, de l'amphithéâtre de Clamart. Donc, une croissance de la demande, hein, et si on avait d'autres chiffres, je n'ai pas eu le temps de fouiller à droite à gauche pour essayer de les évaluer, mais il y a évidemment une croissance très forte de cette demande. Alors, j'en viens à mon deuxième point. Hein. Donc, quelles sont les filières d'approvisionnement pour répondre à cette demande de corps. Et avant de les aborder, je vais arrêter le partage d'écran. Alors, j'arrive pas à arrêter mon partage d'écran. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, arrêtez de partager, excusez-moi. Donc, avant d'aborder ces filières, je voudrais juste faire une remarque générale. Comme vous allez le voir, les acteurs qui sont impliqués par l'appropriation des corps sont multiples. Cette question va concerner l'État, mais également les autorités locales, hein, qui sont intéressées à plus d'un titre dans cette question de l'approvisionnement des corps, pour des questions d'ordre public et de santé publique également. Hein, donc, c'est toute la question de où se sert-on, dans quelle mesure les corps qu'on prend ne provoquent pas le scandale, par exemple, auprès des populations. La question du transport de ces corps et des risques sanitaires que ça peut faire courir à la population, mais également aussi tout ce qui relève du devenir, de l'inhumation des restes. Donc, à Paris, par exemple, hein, le préfet de police, c'est un acteur qui intervient de façon très, très régulière, hein, sur ces questions, sur le contrôle des pratiques anatomiques et en province, hein, pour les quelques études qui ont pu être menées, notamment par Pierre Guillaume à Bordeaux, hein, les préfets, voilà, qui représentent l'autorité de l'État, hein, sont aussi souvent des acteurs de surveillance, de contrôle de ces approvisionnements. Alors, premier acteur, donc l'État, les autorités locales, etc. Deuxième acteur, les médecins. Mais comme vous allez le voir, il faut distinguer plus finement des effets de concurrence à l'intérieur du corps médical. Troisième acteur, les producteurs, entre guillemets, de cadavres, notamment, j'anticipe, mais évidemment, je ne déflore pas vraiment le sujet, vous le savez tous, hein, les administrateurs hospitaliers, mais pas que, hein, ça peut... Ces fournisseurs de cadavres sont par exemple aussi les procureurs qui sont en charge des corps des suppliciés. Enfin, dernière catégorie d'acteurs, les proches, la famille éventuellement, hein, voire en dernier ressort, les morts eux-mêmes, hein, qui peuvent avoir un avis, si je puis dire, sur le devenir de leur reste. Donc ces différents acteurs ont bien sûr des logiques et des attentes différentes, ce qui va aboutir, selon les rapports de force entre ces différents acteurs et les variations de la demande et des objectifs liés à cette demande, ce qui va aboutir à des modalités d'approvisionnement différentes. Alors, pour rappeler là encore les choses, hein, où on en est à la fin de l'époque moderne, la source privilégiée des corps, traditionnellement, pour les leçons d'anatomie, c'était les suppliciés, hein, les corps des suppliciés, qui présentaient deux avantages. D'abord, c'était des corps, j'allais dire, en bon état, des corps d'individus en relativement bonne santé, hein, souvent jeunes. L'autre avantage, c'est que ces corps étaient des corps d'individus qui étaient mis à l'écart de la société par leurs crimes, hein, au point que la dissection était parfois intégrée dans leur châtiment. Hein, donc c'était tout à fait logique de les destiner à ça, hein, ça pouvait même être partie prenante de la peine. C'est le cas en Angleterre, par exemple, avec le Murder Act de 1751, hein, qui prévoit dans les cas des crimes graves que eh bien, le corps sera livré au chirurgien après la mort. Hein, l'anatomie, c'est une pratique qui est infamante. Hein, le corps est exposé nu, il est ouvert, il est détruit, quasiment détruit par l'anatomie, et donc les suppliciés, hein, sont les cibles privilégiées, hein, de ce traitement. Que se passe-t-il ? Alors, on peut aussi utiliser quand même, et on voit se développer au XVIIIe siècle, le recours à d'autres corps qu'on va aller chercher dans les hôpitaux, mais compte tenu du fait qu'encore une fois, la dissection possède une dimension infamante, hein, on va dans ce cas-là utiliser des corps forains, entre guillemets, c'est-à-dire des corps de morts qui ne sont pas des morts locaux, hein, des morts donc, qui sont inconnus, si je puis dire, à la communauté, hein, ou des corps de non-chrétiens, hein, par exemple, sur lesquels de tels gestes sont mieux tolérés, hein, par l'ensemble de la communauté. Alors, que se passe-t-il quand la demande augmente ? Bon, plusieurs solutions vont être expérimentées simultanément. Alors, la solution classique du corps des suppliciés va perdurer, hein, elle ne va pas être abandonnée, elle va faire l'objet d'arrangements, de négociations âpres, mais évidemment, c'est une source, vous le voyez, qui est forcément limitée, hein, même si on guillotine à tour de bras pendant la Révolution, qu'on guillotine encore une centaine de condamnés à mort par an au début du XIXe siècle. Hein, cette source d'approvisionnement décline, hein, et elle est en plus extrêmement particulière, j'y reviendrai donc plus tard. Mais bon, elle subsiste. Deuxième solution qui est expérimentée au tout début de l'augmentation de la demande, c'est d'aller se servir dans les cimetières. Donc, c'est le phénomène de ce qu'on appelait les résurrectionnistes, hein, ou les body snatchers en Grande-Bretagne. Donc, c'est une pratique qui est illégale, hein, qui consiste à aller exhumer des corps. Et plusieurs affaires, hein, ont été portées devant la justice dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, hein, et pas des moindres, hein. Par exemple en 1742, c'est le professeur d'anatomie du jardin du roi, Duvernay, hein, qui est menacé d'une action en justice, hein, pour s'être servi de corps exhumés illégalement dans des cimetières, hein. Et en 1750, vous avez aussi une affaire qui va défrayer la chronique, hein, un étudiant qui a monté tout un petit commerce d'exhumation des corps, hein, et qui va lui aussi être poursuivi. Donc ces corps, on va les chercher dans les cimetières des hôpitaux, où sont enterrés les pauvres, hein, et on en a bon, des témoignages à travers ces archives judiciaires ou à travers des récits comme celui de Louis-Sébastien Mercier dans le tableau de Paris, hein, qui raconte que le corps des pauvres, finalement, n'est jamais en repos. Hein. Même après sa mort, il est travaillé. Alors, bien sûr, la période de la Révolution se caractérise par des formes d'anormalité funéraire, hein, sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre, va être tout à fait propice, hein, à ces appropriations un peu sauvages. Hein, et c'est donc dans cette direction, pour lutter contre ça, que va s'opérer une reprise en main dès la fin du XVIIIe siècle, hein, à partir de 1798. On interdit de façon formelle l'approvisionnement des corps à partir des cimetières. Alors le problème, c'est que quand vous regardez les règlements qui vont suivre, hein, sur la question des dissections, des travaux anatomiques, vous apercevez que cette interdiction, elle est renouvelée, hein, elle est renouvelée par exemple par le préfet de police de Paris en 1815, hein, ce qui laisse supposer que si on l'interdit, c'est que ça continue quand même à être pratiqué, hein, de façon furtive, peut-être pas massive, mais que ça continue un peu, hein, et notamment grâce à la complicité des fossoyeurs. Alors, on peut penser que ces pratiques vont toutefois devenir de plus en plus rares. Pourquoi ? Parce que la solution qui va s'imposer comme la plus rationnelle, c'est d'utiliser évidemment les corps des malades décédés dans les hôpitaux. Hein. D'autant qu'il existait des précédents, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on avait déjà recours à ces corps au XVIIIe siècle. Alors, il faut bien comprendre que le choix de cette filière se fonde sur la mission sociale qui est dévolue à l'hôpital. Hein. L'hôpital, c'est une institution qui ne doit accueillir que les pauvres malades, comme on disait, c'est-à-dire ceux que leur famille ne peut pas prendre en charge, hein, qui sont trop démunis pour être soignés à leur domicile, hein, et donc qui aboutissent à l'hôpital. Et donc, il y a tout un discours qui est tout à fait explicite, hein, qui consiste à dire que si les soins dispensés à l'hôpital sont gratuits, la contrepartie de ces soins, c'est que les pauvres abandonnent leur corps une fois morts à la science, hein, et même une fois pendant leur vie encore, à éventuellement des expérimentations thérapeutiques. Et donc, très tôt, hein, dès 1791, l'Assemblée législative a décrété que les corps non réclamés dans les hôpitaux seraient utilisés pour l'anatomie. Donc, l'hôpital est vraiment désigné comme la source principale d'approvisionnement ce qui fait que ce sont les commissions administratives des hôpitaux qui vont s'occuper de tout ça. Et là encore, il faut être bien, bien conscient d'une chose, c'est que ces commissions administratives des hôpitaux ne sont pas majoritairement médicales et qu'elles vont donc se trouver en position d'arbitrer les différentes demandes, hein, émises par les acteurs que j'ai énumérés d'entrée. Donc elles vont se trouver devant des arbitrages, hein, à prononcer. Premier arbitrage, c'est celui entre les besoins des savants et les revendications des familles. Hein, donc c'est la question de la disponibilité des corps. Deuxième arbitrage, c'est accessoire en quelque sorte, hein, subordonné à celui-ci, c'est la distribution des corps entre les différents demandeurs, entre les praticiens, les professeurs, hein, entre ceux qui veulent autopsier les corps, donc les praticiens hospitaliers, donc je l'ai dit, hein, qui veulent le faire sur place, et qui sont parfois, enfin qui sont normalement dans l'obligation de restituer les corps aux familles après l'autopsie, hein, et ceux qui veulent les disséquer, hein, et qui vont donc vouloir qu'ils soient déplacés vers des amphithéâtres centralisés, hein, qu'ils soient exploités sur le temps le plus long possible, hein, et qu'ils ne soient pas restitués, bien sûr, aux familles. Donc, ce que je veux dire en mettant l'accent sur le rôle des commissions administratives des hôpitaux, c'est que, en l'absence d'un cadrage national très contraignant, hein, on va voir se multiplier des solutions locales avec des chronologies décalées, avec des arbitrages fluctuants. Alors, la première chose, je vous l'ai dit, qui rentre en compte, c'est la position des familles. Hein, est-ce qu'elles veulent récupérer les corps ou pas ? Donc, première possibilité, le fait que les familles réclament les corps. Réclamer les corps, ça veut dire se charger de l'inhumation. C'est-à-dire que ce sont des frais supplémentaires pour ces familles. Donc la plupart des familles, des gens qui viennent et qui meurent à l'hôpital, je l'ai dit, hein, viennent des catégories les plus pauvres, sont parfois isolés, hein, les liens familiaux sont desserrés, hein, et donc vous allez retrouver les mêmes causes produisant les mêmes effets, hein, peu de familles pour réclamer les corps, hein, parce que c'est coûteux et parce que parfois il n'y a pas de famille. Donc, la possibilité pour les corps de réclamer les familles, pour les familles de réclamer les corps existe, hein, mais elle n'est pas souvent mise en œuvre. Alors, si personne ne réclame le corps, que se passe-t-il ? Dans ce cas-là, tout est possible. D'abord, une autopsie menée par les médecins qui ont suivi le malade, et ensuite, l'envoi du corps, hein, aux amphithéâtres, qui fait suite. Alors, le cas d'un corps, si le corps d'un malade est réclamé, ce n'est pas pour autant que l'autopsie n'est pas possible. Hein. Au contraire, l'administration hospitalière tolère l'autopsie, à charge pour les médecins de remettre le corps en état et de le rendre aux familles. Sur l'ensemble du siècle, la tendance est en effet que, par défaut, hein, l'autopsie est autorisée. Et les familles sont censées le savoir, hein, et prendre l'initiative de l'opposition si elles ne veulent pas que leurs proches soient autopsiés. Alors, ça a été précisé par une circulaire ministérielle en 1850 destinée aux directeurs des établissements hospitaliers, que je vous cite, à moins que je l'ai mise en partage d'écran. Non, je ne crois pas. Vous devez toujours laisser les familles à leur spontanéité. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur cette question de spontanéité, hein, pour des familles qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'hôpital, qui sont illettrées, etc. Bon, bref, qui ne sont pas informées forcément de la mort de leurs proches immédiatement. Donc, vous devez toujours laisser les familles à leur spontanéité et vous abstenir de provoquer leur opposition à l'autopsie cadavérique. Il est même à propos que vous vous efforciez au besoin d'exercer sur leur détermination une légitime au nom de la science, influence, en leur faisant comprendre que les investigations médicales sont autant dans leur propre intérêt que dans celui de l'humanité, que dans celui de la science. Insister avec mesure, mais sans rien exiger ni peser, sera souvent le moyen de vaincre les résistances irréfléchies et de faire prévaloir le conseil de la raison. Donc, autrement dit, vous voyez, la règle telle qu'elle est énoncée pour les administrations hospitalières, c'est ne rien dire, et si les familles déclarent leur opposition, tenter de les convaincre de renoncer à cela. Alors, ça, c'est le cadre général, et juste pour le nuancer un petit peu, je reviens à mon partage d'écran. C'est un peu plus compliqué que ça. On le voit par exemple dans le cas parisien, hein, en 1841-1842, la Commission générale des hospices va prendre en novembre 1841 une décision tout à fait étonnante. Hein, elle va décider, je vous ai mis un extrait de délibération, que les médecins et les chirurgiens des hôpitaux ne pourront ouvrir les cadavres des personnes réclamées par leur famille qu'autant que les parents auront délivré par écrit leur consentement. Donc vous voyez que là, les commissions se déplace le curseur du côté des familles, hein, en posant comme préalable le fait que les familles donnent une autorisation, hein, pour que les autopsies puissent être faites. Alors, je ne vous ai pas mis toutes les péripéties, mais ça va être le branle-bas de combat chez les médecins parisiens, hein, qui vont remonter jusqu'au ministre de l'Intérieur pour protester, et puis va redescendre ensuite en sens inverse toute une série de directives, et moins d'un an plus tard, hein, la Commission générale des hôpitaux revient sur sa décision, hein, en disant donc ce que j'ai décrit au niveau national, ce qui sera décidé et prescrit au niveau national 8 ans plus tard, hein, les corps réclamés par les familles ne pourront être ouverts lorsqu'elles auront formellement et spontanément exprimé au directeur de l'établissement le vœu qu'il ne soit pas procédé à leur autopsie. Et donc voilà, cette opposition sera immédiatement mentionnée sur le registre de destination des corps. J'ai essayé d'avoir accès au registre d'opposition aux autopsies de la PHP, à Paris. Ces registres sont vides, hein, il y a très peu d'opposition. Alors, concernant l'arbitrage entre les praticiens hospitaliers auxquels j'ai fait allusion, hein, là aussi les commissions administratives marchent en terrain délicat, hein, puisqu'il y a des demandes à la fois des praticiens hospitaliers et des professeurs pour s'approprier les corps. Je vous ai mis là il y a plusieurs réglementations au début du 19e siècle qui vont tenter d'arbitrer les choses. En 1842, donc dans la lignée de ce qui a été décidé concernant les arbitrages entre familles et médecins, eh bien, on va aussi statuer sur l'attribution des corps et leur distribution entre ceux qui sont dans les hôpitaux, qui les ont soignés, et ceux qui en ont besoin dans les amphithéâtres centraux. Donc, vous voyez, il y a toute une série de règles, hein, qui laissent voir de façon sous-jacente la très forte concurrence, hein, au niveau de ces corps, hein, puisque, bon, par exemple, un chef de service ne peut autopsier qu'un malade, enfin un médecin, pardon, qui travaille dans un service hospitalier ne peut autopsier qu'un malade mort dans son service, hein, donc il ne va pas aller chercher dans le service des autres. Une part des morts non réclamées est soustraite aux autopsies hospitalières pour aller alimenter les amphithéâtres de Clamart ou de la Pitié. Hein, deux tiers des corps sont retirés pour être transportés là-bas en 1842, c'était la moitié auparavant. Hein. Mais en même temps, les professeurs de clinique peuvent autopsier tous les malades morts dans les services. Enfin, vous voyez qu'il y a des distributions là qui sont extrêmement subtiles. Alors, à partir de tous ces éléments, il serait possible de décrire le mouvement hein, des corps à Paris. Donc, le corps d'un individu mort dans un hôpital parisien, il a toutes les chances d'être autopsié sur place. S'il est réclamé par la famille, son parcours va s'arrêter là. S'il n'est pas réclamé, il peut en outre soit être disséqué sur place s'il est dans un hôpital excentré, hein, pour lequel on a maintenu des dérogations, soit d'être envoyé aux amphithéâtres centraux. Et cette circulation, elle se double d'une économie formelle et informelle qui concerne l'administration et le personnel des amphithéâtres. Et donc là, c'est là que je regrette de ne pas avoir pu me plonger dans mes archives pour vous donner des éléments. Ces cadavres ont en effet une valeur marchande. Hein. Ils sont achetés 50 centimes aux hôpitaux. Donc ça, ce sont des chiffres dans les années 1830-1840. Hein. Ils sont achetés 50 centimes aux hôpitaux. Alors évidemment, ce n'est pas dit comme ça. Dans les budgets, ça apparaît sous la rubrique frais de fourniture. Hein, donc on paie des frais de fourniture aux hôpitaux de 50 centimes. Et puis ensuite, ils sont revendus, enfin mis à disposition, et avec des prix qui varient en fonction de leur état. Hein. Par exemple, au début des années 1840, donc, si le cadavre est entier, 7 francs. S'il a déjà été ouvert donc, par une autopsie, 4 francs. 2 francs pour un foetus, etc. etc. Donc il y a des conflits sans fin, il y a toute une paperasse très intéressante que j'ai pas. Je vais aller dépouiller de plus près hein, sur les conflits, sur les corps qui arrivent trop abîmés, donc on considère qu'ils n'auraient pas dû être envoyés, etc. Hein. Et à qui ces corps sont-ils vendus? Ils sont vendus aux professeurs qui les utilisent pour faire des leçons privées. Ou pour leurs travaux personnels. Ils sont vendus aux maisons qui proposent des pièces anatomiques, par exemple la maison Tramont, hein, qui est une maison qui a pignon sur rue à Paris. Ils sont vendus aux élèves, aux étudiants qui veulent s'exercer en dehors des cours. Hein, tout cela génère là aussi des petits profits pour les garçons d'amphithéâtre hein, qui, pour la mise à disposition des corps, se voient reverser une somme d'un franc forfaitaire par corps par l'administration de la faculté de médecine. Donc tout ça est comptabilisé, archivé, etc. Alors à côté de ça, il y a des trafics informels que l'administration condamne. Le détournement de corps ou de morceaux de corps, hein, de dents, de cheveux, de squelettes, etc. Sur lesquels les garçons d'amphithéâtre hein, jouent un rôle considérable, quoique assez obscur. Alors, j'ai évoqué ici essentiellement, je regarde l'heure, je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. J'entends pas comme vous avez coupé vos micros, pardon.
Non, je pense. Si tu veux continuer encore un petit peu, Élie, hein, je pense qu'une dizaine
de. Oui, oui, moi je bois du petit lait. Les 4 francs pour le cadavre découpé, je trouve ça absolument fascinant. Qui déjà, enfin, bon, on va revenir dessus. On a commencé 10 minutes après le début, donc on a dû commencer à 11h moins 5, un truc comme ça.
D'accord, ok. Donc il me reste une dizaine de minutes. Ouf.
Mais cool, Anne. Si tu veux prendre plus de temps pour expliquer plus de trucs, nous, on est aux anges. Hein.
D'accord. D'accord. Bon, alors, je vais quand même essayer de ne de pas, pas, enfin, pas trop rentrer en détail, quitte à ce que, dans les questions, après, je puisse développer des aspects. Alors, là, je viens d'évoquer les questions d'appropriation des corps à des fins de dissection et d'autopsie, hein, essentiellement. Je voudrais revenir sur un autre usage que j'ai laissé de côté, c'est l'expérimentation qui concerne les corps des suppliciés. Cette filière particulière des corps des suppliciés, qui était la filière traditionnelle, et qui est devenue donc minoritaire hein, au XIXe siècle en chiffres par rapport aux corps venus des hôpitaux. Ces corps de suppliciés gardent, ceci dit, une grande attractivité, et on peut même dire qu'ils acquièrent une attractivité particulière au XIXe siècle. Pourquoi ? Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des corps de bonne qualité, hein, d'un point de vue anatomique. Ils sont en bon état. Tout le temps qu'ils ont passé en prison avant leur exécution, on les a soignés, on a veillé à ce qu'ils ne soient pas malades, ils ont été bien nourris, etc. Donc, ce sont des corps, évidemment, en meilleur état que les corps récupérés à l'hôpital. Mais à cette qualité propre au corps s'ajoutent des facteurs qui sont liés au contexte et notamment à l'évolution de la médecine et de la façon dont se construit la science médicale. Par exemple, vous le savez, hein, se développe tout au long du XIXe siècle tout un intérêt pour les bases anatomiques ou physiologiques du crime. Donc, quels sont les stigmates de la criminalité, la forme des crânes, etc., etc. Donc, c'est la phrénologie développée par Gall, c'est l'étude de l'anthropologie criminelle hein, par Lombroso, ce sont aussi les recherches des localisations cérébrales de Broca, et pas tellement de Broca, mais surtout d'ailleurs de ses disciples, qui vont, comme Bordier, hein, qui vont s'intéresser au crâne des criminels. Et donc là, évidemment, on s'intéresse beaucoup au corps des suppliciés, à certaines parties de leur corps, le visage, le faciès, le crâne, les mains aussi, dont on va faire des moulages. Autre élément du contexte, totalement différent, mais qui rend ces corps attractifs, c'est le développement de la physiologie expérimentale, de la médecine expérimentale, j'ai fait allusion au début, et de son corollaire qui est la vivisection. Vous savez que la physiologie expérimentale, dans le sillage de Magendie, Claude Bernard, etc., elle s'est accompagnée d'une hécatombe, je n'ose même pas y penser, d'animaux de laboratoire auxquels on a fait subir des tas de choses. Et évidemment, on aimerait bien faire de la vivisection humaine, mais ce n'est pas possible. Or, ces corps de suppliciés, ils présentent d'une certaine façon, ils sont dans un état qui est celui sans doute qui se rapproche le plus d'une vivisection idéale. Pourquoi ? Parce qu'ils sont, comment dire, tués tout vifs. Hein, ils sont, juste après la mort, la vie est encore très fraîche en eux. Et comme, là je n'ai pas le temps de développer, mais... comme on est de plus en plus convaincu depuis le XVIIIe siècle que la mort est un processus qui prend du temps pour envahir tout l'espace corporel, hein, on a l'idée que ça tarde dans le corps des suppliciés et a fortiori des décapités hein, où la mort est vraiment totalement instantanée. Hein, on a l'idée, l'espoir hein, que dans ces corps subsistent encore beaucoup de vie. Donc ce sont des corps qui sont presque utilisables pour la vivisection, d'une certaine façon. Donc les corps des criminels, ils vont être soumis à des dissections, mais aussi à des expérimentations en raison de ces qualités. Alors, je voudrais quand même juste dire un mot sur les dissections des corps de criminels, parce qu'elles ont un caractère assez particulier par rapport aux dissections ordinaires. Je l'ai dit, hein, la dissection des suppliciés, elle était publique hein, à l'époque moderne et ça participait du caractère infamant hein, de ce traitement, de ces morts particuliers. Alors, Est-ce que c'est encore le cas au XIXe siècle? Non. Hein, on ne fait plus de dissection publique de suppliciés. Mais pourtant, si, un peu, parce que, notamment grâce à la complicité des médecins, des journalistes sont souvent présents, hein, au moment des dissections réalisées sur les corps des criminels. Et ces journalistes vont ensuite publiciser ces dissections dans la presse, hein, une presse à sensation très abondamment lue. Hein. Je rappelle que les tirages des journaux, à la fin du XIXe siècle, des quatre principaux quotidiens, c'est 1 million d'exemplaires par jour, hein, c'est énorme. Et ils vont raconter tous les détails de la dissection et donner des détails extrêmement intimes, hein, de nature parfois infamante, hein, pour les condamnés, sur leur anatomie intime, surtout s'il s'agit de séducteurs supposés, sur la virginité de tel ou tel condamné, etc. etc. Donc là, il y a un prolongement particulier qui est assez intéressant dans le cas des suppliciés, dans cette forme de publicisation. Hein, bon, alors, vous avez les journalistes sont très friands de discours moralisants lorsqu'ils font les récits des dissections. Ils concluent souvent en disant, ben voilà, finalement, Prévost, qui a tué sa victime, qui l'a découpé en morceaux et éparpillé dans Paris, eh bien, c'est un juste retour des choses, qu'il soit à son tour coupé en morceaux et dispersé dans les vitrines de la faculté. Alors, je reviens quand même aux expérimentations. Vous avez deux vagues d'expérimentations qui sont menées sur les corps des suppliciés. Première vague, fin 18e, début 19e, entre 1798 et 1804, qui sont des expériences de galvanisation, hein, où on va essayer de faire passer de l'électricité dans les têtes, dans les corps, etc. Notamment, l'objectif, c'est de mesurer, d'une part, la persistance des mouvements vitaux et la façon dont certains organes restent en vie plus longtemps que d'autres. Hein, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, ces recherches sur la mort comme un processus. Ou alors, on va galvaniser aussi pour tester le caractère thérapeutique éventuel de l'électricité. C'est-à-dire, est-ce que l'électricité, finalement, ce n'est pas la vie, hein, on s'interroge là-dessus. Est-ce que dans ces corps, on ne peut pas recréer un peu de vie, faire bouger les bras, etc., mouvoir les muscles de la face, et ce serait intéressant, en quelque sorte, pour l'utilisation de l'électricité. Dans les années 1880, on est dans un contexte qui est différent, et on va d'ailleurs non pas procéder tant à des électrisations qu'à des transfusions expérimentales de têtes de décapités. Hein, donc ce sont tous ces médecins qui travaillent dans la physiologie expérimentale, hein, comme Laborde par exemple, qui vont se livrer à des expériences de transfusion, qui vont se développer au début des années 1884, jusqu'à ce qu'un coup d'arrêt soit mis en 1885 par Paul Bert, hein, qui va expliquer à ses expérimentateurs que bon, s'ils arrivent à faire revenir de la vie dans la tête et à faire revenir aussi de la conscience, ils retournent à l'ancien régime des supplices, hein, en prolongeant celui-ci au-delà de la mort. Alors, je reviendrai, si vous voulez, sur cette question des expérimentations, mais je voulais le souligner. Alors, j'en viens à mon dernier point, c'est le devenir des restes. Que fait-on des restes? C'est une question qui se pose sur un plan, j'allais dire, sanitaire, hein, mais aussi moral, et qui va donner lieu à un certain nombre de réglementations. Alors, le point de départ, il s'agit d'éviter les phénomènes de destruction sauvage des restes qui accompagnaient la multiplication des lieux de dissection privés à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Hein, on avait constaté en effet que le traitement de ces restes était dans ce cas-là extrêmement arbitraire. Hein, on les brûlait, on les abandonnait sur la voie publique, on les jetait dans la Seine, etc., etc., avec des plaintes hein, de la population par rapport à la présence de ces restes ensuite dans, dans l'espace public qui était enregistré par la police. Alors, donc il s'agit d'éviter ces phénomènes de destruction sauvage qui sont en théorie désormais impossibles avec la régulation progressive des lieux de pratiques anatomiques, mais qui sont quand même susceptibles de se produire si les étudiants emportent avec eux des morceaux de corps et donc les font échapper au circuit, j'allais dire, normal de traitement. Or, cette pratique, elle est avérée hein, de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe. On voit dans les règlements divers et variés s'appliquant aux travaux pratiques hein, qu'il faut veiller pour le chef des travaux que les étudiants ne partent pas avec des morceaux hein, anatomiques. Alors, que deviennent les corps, les morceaux de corps, une fois les autopsies et les dissections effectuées? Alors, il faut replacer évidemment les pratiques dans le contexte de l'évolution des sensibilités funéraires, et là, ça nous amènerait on pourrait en parler des heures, hein, l'évolution des sensibilités funéraires. Pour schématiser très grossièrement, on passe de l'époque moderne à un contexte où l'important, c'est d'inhumer les corps en terre consacrée. C'est ça le plus important, c'est qu'il y ait une inhumation des restes, des corps en terre consacrée, en terre bénite, hein, et de veiller au salut des âmes par des prières, des messes, etc. À un contexte au XIXe siècle où le devenir du corps compte de plus en plus, le devenir du corps dans sa matérialité, hein, du point de vue du respect de son intégrité, du point de vue du respect de son individualité et du point de vue de sa stabilité, en quelque sorte, géographique, spatiale. Donc, tout ça se produit entre le XVIIIe et le XIXe siècle, et donc il faut voir que ce contexte des sensibilités funéraires, hein, il est mouvant sur toute la période. Malgré tout, hein, vous voyez que, bien évidemment, la multiplication des autopsies, des dissections, etc., fait que ces usages médicaux s'écartent de plus en plus de ce qui est en train de se construire comme norme funéraire. Et cet écart hein, va contribuer à nourrir la peur de l'hôpital hein, au XIXe siècle. On a peur d'aller à l'hôpital, pas tant parce qu'on y est soigné, on y est plutôt bien soigné, hein, mais parce qu'on a peur d'y mourir et parce qu'on a peur de ce qui va advenir au corps. Hein. La peur de l'hôpital au XIXe siècle, elle est fondée vraiment sur ça. Alors, je passe rapidement sur les autopsies, sur le devenir des corps après autopsie. Premier problème qui se pose, c'est celui de l'intégrité du corps, de l'état du corps dans lequel le corps est lorsqu'il est éventuellement rendu aux familles. Donc tous les règlements hospitaliers insistent sur la nécessité de rendre ces corps présentables. Et cette insistance, évidemment, elle incite à penser que, si on le répète, hein, c'est que ce n'est pas acquis et que c'est souvent une opération bâclée. Bâclée, donc, du point de vue de la remise en état, qui est sommaire, hein, de ce qui est recousu ou pas. Problème aussi parce que, comme je vous l'ai dit, la tentation est très grande dans les hôpitaux de ne pas faire juste une autopsie de vérification du diagnostic, mais d'ouvrir un peu à droite à gauche hein, pour voir ce qui se passe. Et problème aussi parce que s'effectue souvent dans les morgues hospitalières des prélèvements de dents, des prélèvements de cheveux hein, qui sont monnayés. Par exemple, les dentistes qui interviennent gratuitement dans les hôpitaux hein, ont tendance à penser que cette intervention gratuite doit être compensée par la récupération de dents hein, qu'ils peuvent ensuite monnayer. Alors, pour tenter de contrer cette peur, les médecins créé dans les années 1870 une société d'autopsie mutuelle qui préfigure un peu le don du corps à la science, où il donne l'exemple en quelque sorte. Les membres de cette société d'autopsie mutuelle s'engagent à laisser leurs collègues autopsier leur corps. En fait, c'est une émanation de la société d'anthropologie et les usages de ces corps sont essentiellement la récupération du cerveau pour faire des études sur les localisations cérébrales. Donc, il développe tout un discours sur le caractère neutre, voire bénéfique pour les progrès de la science. Vous l'avez vu tout à l'heure dans la circulaire de 1850, il faut vaincre les répugnances des familles en insistant sur les bienfaits des autopsies multipliées, mais sans réussir véritablement à convaincre, étant donné, encore une fois, je vous l'ai dit, cette montée en puissance d'une exigence d'intégrité des corps au XIXe siècle. Alors, les corps qui sont soumis à l'autopsie et qui ne sont pas réclamés sont inhumés par l'administration hospitalière. On n'a pas beaucoup d'éléments dessus sur les façons dont les choses s'opèrent. Ils subissent un traitement normal, j'allais dire. Ils sont souvent inhumés dans des fosses collectives, mais ça, c'est le cas de tous les corps des pauvres, avec une ritualisation minimale, mais réelle, présence de l'aumônier, etc., etc. Pour les dissections, c'est beaucoup plus complexe. Une partie de ces restes, ce que les sources administratives et archivistiques appellent les débris, c'est le mot qui est employé, une partie de ces restes fait l'objet d'un processus funéraire. Les règlements disent que les débris des cadavres, par exemple le règlement qui est promulgué à Paris en 1815, dit que les débris des cadavres seront portés soigneusement au cimetière de Clamart pour y être enterrés. Donc, cimetière de Clamart, puis ensuite cimetière du Montparnasse, puis d'Ivry, au sud de Paris dans les années 60. Ce sont des cimetières qui sont quand même à part, ce sont des espaces de relégation où ces corps vont se retrouver à côté des corps des suppliciés, y compris des corps des suppliciés qui ne sont pas passés par l'étape de dissection, qui ont été directement inhumés après l'exécution. Alors, vous avez toute une série de notations intéressantes dans ces règlements sur la question du transport, de la visibilité ou de la non-visibilité de ces restes et de ce que ça met en jeu et qui s'insère dans d'autres interrogations sur cette question de la visibilité, par exemple les salles de dissection, les fenêtres dans le quartier, est-ce qu'on peut voir par au-dessus, etc. Donc là, il y a tout un effort d'invisibilisation de ces atteintes portées au corps qui est tout à fait intéressante à suivre dans les règlements. Les règlements qui sont promulgués suivent le mouvement général de diffusion des cercueils, des modalités d'inhumation et notamment la place croissante prise par le cercueil. Par exemple, le règlement de 1862 à Paris prévoit que les corps seront renfermés avec soin dans des bières, transportés au cimetière des hôpitaux, où ils seront inhumés selon les règles prescrites. Il y a une question qui se pose en filigrane là-dessous, c'est celle de l'accumulation de débris de plusieurs corps dans une même bière, qui est bien entendu une opération plus rentable ceux qui se chargent de ces inhumations. Donc ça, c'est un vieux problème. C'est un vieux problème qui se pose de façon récurrente. Je vous citerai juste pour vous montrer l'importance de ces inquiétudes et l'ancienneté de ces inquiétudes. Un règlement bordelais en 1797. Les hôpitaux, en 1797, s'engagent à livrer des corps à l'école de médecine bordelaise qui vient d'être reconstituée. Ils s'engagent à les donner un par un, c'est intéressant, un par un, en disant bien qu'ils ne donneront le suivant que, je cite, « après que les lambeaux du précédent auront été soigneusement rendus et pliés conformément au règlement. Je savais que ça plairait beaucoup à Elisabeth, le côté lambeau, rendu et plié. Et bon, voilà, Pierre Guillaume, qui a travaillé sur le cas bordelais, hein, pose l'hypothèse que déjà, là, ce qui est en jeu, c'est la question de, on en donne un quand on a récupéré l'autre pour éviter les mélanges hein, de restes. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que du côté des médecins, il y a une évolution dans la façon dont ces restes sont considérés. Dans la deuxième moitié du siècle, et dans un contexte où on craint la saturation des cimetières, la question de ces débris anatomiques va être envisagée par des hygiénistes sous l'angle de la gestion de déchets. Le volume des déchets produits par les amphithéâtres parisiens hein, devient un sujet de préoccupation et on a une sorte de glissement vers une approche pragmatique et matérialiste, hein, une sorte de réification de ces corps qui est évidemment facilitée par leur morcellement. Hein. Par exemple, dans les années 1860, un médecin calcule qu'en 10 ans, hein, ce ne sont pas moins de 2500 mètres cubes de déchets et 2500 tonnes de débris hein, qui seront à traiter, avec en arrière-plan une crainte de l'étouffement hein, des vivants par cette avalanche de matière. Hein. D'autant que, dit-il, ces corps sont traités pour durer, hein, pour pouvoir être disséqués pendant des jours et des semaines, et donc leur corruption, elle est pas, elle risque de prendre du temps. Un autre exemple, hein, en 1885, un médecin calcule que les débris humains des hôpitaux hein, ont occupé plus de 4000 mètres carrés hein, dans le cimetière d'Ivry en un an et demi. Or, on est dans un contexte où une part croissante de la surface des cimetières est gelée par les concessions perpétuelles, hein, ou même temporaires. Et donc, voilà, il y a cette crainte, encore une fois, d'une invasion hein, de l'espace par ces débris. Donc, il y a des solutions qui sont proposées dans ce cadre, hein, accélérer leur décomposition. Alors, je voudrais prolonger un peu les recherches dans ce sens, mais je ne l'ai pas fait. Apparemment, en 1881, on va faire des expériences pour accélérer la décomposition des corps. Et puis, bien sûr, la crémation hein, va être considérée comme la solution la plus intéressante. Et la construction du crématorium du Père Lachaise, hein, qui est achevé en 1889, va fournir une issue pour ces débris hospitaliers, ces déchets hospitaliers, hein, de même qu'on va y brûler les fausses couches qui sont collectées à Paris hein, par les services de l'état civil notamment. Donc, quand on regarde les débuts du crématorium du Père Lachaise, hein, les incinérations normales entre guillemets sont très minoritaires. Hein, et pour la période, par exemple, 1889-1896, sur 28 000 crémations, hein, vous avez 17 000 crémations qui concernent des débris hospitaliers. Donc on est là, vous voyez, dans ces cas de ces débris-là, dans une évolution qui va au rebours hein, des sensibilités des contemporains. Alors une autre partie de ces restes échappe au processus funéraire, je l'ai dit, du fait que des pièces, des morceaux de corps sont soustraits au circuit normal. Alors, on l'a dit, hein, on n'a pas le droit normalement de s'approprier des morceaux de corps et de les sortir, mais en fait, il y a une tolérance hein, du moment que cela sert des usages pédagogiques ou muséaux. Hein, à condition que ça aille dans des collections, que ça tourne en circuit fermé hein, autour des écoles, des facultés, etc. Donc je vais résumer, hein, je vais indiquer les grandes lignes. Donc vous avez, en même temps que progressent les techniques de conservation, hein, réutilisation d'une partie de ces restes, des squelettes, des os, des pièces humides, je l'ai dit, des pièces qui vont être injectées avec de la glycérine, vous avez des pièces sèches également qui vont être montées sur des tablettes, etc. Et ça, ça nourrit tout un imaginaire autour de ce qui se passe dans l'arrière-salle des hôpitaux ou l'arrière-salle des amphithéâtres. Tout un imaginaire romanesque, j'avais prévu, je vous la ferai voir peut-être, enfin vous la verrez quand je mettrai à disposition le diaporama. Vous avez un roman, par exemple, en 1886, qui imagine comme ça une espèce d'usine des morts à Paris, où des hommes touillent d'énormes marmites dans lesquelles des morceaux de corps sont plongés pour que les os puissent ensuite être dégagés. Donc il y a tout un imaginaire ici très, très sombre, qui nourrit encore une fois la peur de l'hôpital. Dont les exhibitions, elles sont dans les écoles de médecine, dans les facultés de médecine, dans les collections privées des praticiens, dans les hôpitaux qui constituent parfois leur propre collection. Ces restes occupent une place très importante dans ces musées de médecine. J'avais essayé de travailler un peu sur les catalogues des musées de médecine au XIXe siècle. Vous avez par exemple à Strasbourg 1300 pièces anatomiques en 1820, 1700 en 1824, 3500 en 1843. Donc tout ça va en progressant. Je terminerai juste par une dernière remarque. On va retrouver évidemment dans ces collections des restes de corps de suppliciés ou des corps de suppliciés entiers, soit dans des musées d'anatomie normale, puisque ce sont des beaux corps, je l'ai dit, soit dans des musées d'anthropologie criminelle, où on va exposer leur crâne, etc. Mais vous avez, dans leur cas, des choses assez étranges qui se passent. Par exemple, à Montpellier, dans le musée de la faculté de médecine en 1827, dans une vitrine, sont exposés trois squelettes côte à côte, celui de deux assassins et de leurs victimes. Celle-ci a été exhumée 3 ans après sa mort et elle a été reconnue par une particularité anatomique. Elle avait un doigt surnuméraire à la main droite et au pied gauche. Alors pourquoi on peut se poser la question de savoir pourquoi exposer ces corps. Est-ce que c'est une logique criminologique? Mais dans ce cas-là, pourquoi mettre la victime? Il ne s'agit pas de montrer des squelettes de criminels et les caractéristiques de ces, éventuellement de leur crâne ou je ne sais pas, ou de leur conformation, puisqu'on met aussi la victime. Est-ce qu'il s'agit d'une logique d'anatomie pathologique? Oui, dans le cas de la victime, c'est un squelette un peu spécial avec ses doigts surnuméraires, mais ce n'est pas le cas pour les criminels. Donc, qu'est-ce qui les rassemble en fait? C'est le fait divers. C'est le fait divers. Et il y aurait donc tout un travail à faire, je pense, sur ces logiques d'exposition muséographique qui sont tout sauf claires. J'avais été frappée, par exemple, par le fait que dans les expositions de crânes de criminels, vous n'avez pas dans les notices qui les accompagnent une description, par exemple, de la protubérance du cervelet qui expliquerait pourquoi ils sont passés à un acte criminel. Mais vous avez des notations qui sont de l'ordre de l'état civil, voilà, nom, l'âge, le crime, le motif de la condamnation, la date de l'exécution et rien de plus. Ce qui me conduit à faire un peu l'hypothèse, vous allez voir pourquoi j'ai fait ce petit détour avant de terminer, ce qui me conduit à faire l'hypothèse que ces musées où ces restes humains sont soustraits au processus funéraire, dans le cas en particulier des criminels, sont des anti-cimetières. C'est-à-dire que quand vous allez au cimetière au XIXe siècle, vous promenez entre des tombes sur lesquelles il y a des épitaphes édifiantes qui énumèrent les vertus des morts dessous, et en vous promenant dans le cimetière, comme on commence à en prendre d'habitude au XIXe siècle, on s'instruit, on se moralise, etc. Quand vous allez dans ces musées, hein, ces notices sont des sortes de contre-épitaphes, hein, où on va stigmatiser, au contraire, ces corps qui, par ailleurs, hein, échappent au repos, dans une tombe pérenne, hein, c'est-à-dire à ce qui est l'idéal funéraire au XIXe siècle. Alors, sans compter ceux qui passent dans les musées forains et qui sont, eux, alors livrés complètement à la curiosité publique. Donc, je conclue en disant que bon, ce panorama laisse quand même beaucoup de questions de côté, hein, sur lesquelles j'aimerais continuer à travailler. Vous voyez que je n'ai pas du tout traité des questions d'hygiène qui interfèrent avec le traitement des corps dans les amphithéâtres, hein, du côté dangereux du corps. J'ai laissé de côté la question du comportement adopté dans ces lieux, de la décence, etc., hein, qui là aussi est traversée par de nouveaux impératifs au XIXe siècle. Hein. Il y a des gestes qu'on peut faire, il ne faut pas rire, il ne faut pas courir, il faut, bon, bref, tout cela. Le principal problème pour moi qui se pose, c'est celui de faire la jonction entre ce 19e siècle que je commence à connaître un peu et le 20e siècle et l'approvisionnement des corps. Hein, c'est-à-dire que à la fin du 19e siècle, cette question de l'approvisionnement des corps, elle devient très opaque, très difficile à percer. Quand vous lisez des ouvrages, les gens qui traitent de ces questions disent en général « Oui, mais au XXe siècle, les méthodes pédagogiques ont changé. On a des manuels, on peut faire des diapositives, des films, des photos, etc. pour expliquer. On a moins besoin. On a... Puis maintenant, on est dans les virtuopsies, les autopsies virtuelles, les reconstitutions en 3D, des coupes du corps, etc. etc. » Oui, mais entre les deux, comment on fait, hein? On sait qu'il y a l'institution du don des corps, ça, je ne vais pas vous l'apprendre, hein, mais il y a un espèce d'angle mort là, qu'il faudrait éclairer par l'histoire, hein, du passage entre cet approvisionnement massif et le don de corps, et en articulant ça aussi avec le changement de la demande au XXe siècle. Voilà, donc c'est un chantier à ouvrir, enfin qui reste ouvert, j'aimerais bien m'y intéresser, mais on n'a qu'une vie et voilà, c'est tout. Je termine comme ça.
Merci Anne, merci beaucoup.